Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous, je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. À l'heure du confinement, Histoire de Daron continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son qui est un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des interviews dans cette période. Cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Yannick, qui est doublement papa dans des conditions très différentes pour chacun de ses deux enfants. Il vous racontera tout ça. Yannick est également professeur des écoles, mais s'est lancé dans le dessin grâce à sa page Facebook et son compte Instagram, notamment pour dessiner son quotidien de papa. Ce qui est à la base un hobby est en train de devenir un boulot à plein temps puisque Yannick a financé dernièrement avec succès son premier livre en vrai papier sur Ulule et qu'il a un nouveau projet de livre pour enfants en collaboration avec Papa Chouche qui est d'ores et déjà financé après quelques jours et qui devrait cartonner. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de cet épisode si vous souhaitez vous les procurer. Avec Yannick, on parle également d'allaitement, de masculinité et d'éducation dans un petit garçon dans notre société actuelle, de violence conjugale, bref, de plein de sujets. Un grand merci à Yannick pour sa disponibilité. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. Et avant de vous laisser, j'aimerais également vous inciter à venir commenter sur www.daron.fr. Pour centraliser vos commentaires sur ce site, j'aimerais bien qu'on y retrouve un peu un espace de discussion, comme à l'époque des blogs, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était trop bien. Vous cliquez sur le lien « Commenter » dans les notes du podcast pour y arriver directement, et vous pouvez venir me donner un petit commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci d'avance donc pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie de Yannick, et je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Merci à vous. On est avec Yannick. Salut Yannick.
Salut.
Ça va ?
Ça va, ça va.
Yannick, comment ça se passe pour toi? Première question que je vais poser désormais pour tous mes histoires de daron. Comment se passe le confinement de ton côté?
C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que j'ai une petite fille, Anaë, qui a 8 ans et qui habite avec sa mère. Ouais. Et pendant le confinement, c'est très très compliqué parce que sa mère est soignante, donc du coup impossible de la voir. Okay. Donc voilà, le confinement se passe avec mon fils de 13 mois.
Ouais, compliqué de ce fait-là, la distance. Vous réussissez quand même à garder un lien avec grâce à Internet.
Grâce à Internet, on arrive à, je lui fais faire ses devoirs. Enfin voilà, on arrive à s'appeler, à avoir des nouvelles et tout. Mais j'avoue, c'est un peu compliqué.
Ok, force à toi, puis force à elle aussi, j'imagine, parce que je pense que de son côté, son papa doit lui manquer aussi, quoi.
Et ouais, c'est compliqué là.
Yannick, je t'ai découvert grâce à Instagram. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Ça marche vachement bien.
Je m'en sers un petit peu, ouais. C'est pas mal. Ça démarre bien.
Si je ne me trompe pas, en fait, t'es professeur des écoles, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Et tu utilises Insta pour... alors, je ne sais pas si de ce fait-là, c'est un hobby pour toi ou si tu te lances dans une carrière de semi-pro, mais à la base, pour dessiner, pour illustrer, c'est ça?
Ouais. Clairement, moi, je suis prof des écoles et j'ai jamais pris de cours de dessin ni rien. Je fais ça vraiment par passion. Et puis, j'ai commencé à poster des illustrations sur Instagram, sur Facebook aussi. Ouais. Et le truc a vraiment fonctionné parce que je parle de la paternité souvent dans mes dessins, mais pas que. Et le truc a vraiment décollé. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai 45 000 personnes qui me suivent sur Instagram et c'est cool.
Et bon, on en reparlera un petit peu après, mais j'ai vu aussi que de ce fait-là, tu as réussi à faire financer par par ta commu un album, en fait, c'est ça ? Qui va être en vrai papier ?
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait un financement participatif via la plateforme Ulule. Et en fait, j'ai décidé de faire quelque chose avec ces dessins que je fabriquais, quoi, que je créais. Donc du coup, faire un album, pour moi, c'est vraiment... J'adore déjà le livre, à la base, le matériau, quoi. Et me dire, voilà, j'ai mon livre à moi, avec mes dessins dedans, c'est juste parfait.
Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le dessin comme ça sur Insta ?
Alors, c'est une question un peu... Mais en fait... C'est pour moi, c'est vraiment, j'ai commencé à dessiner quand je me suis retrouvé seul à Marseille, perdu. Quand j'ai eu mon concours de prof des écoles, ma première affectation, ça a été les quartiers nord de Marseille. Et c'est à 100 km de ma fille.
Ok.
Donc du coup, je me suis retrouvé seul dans mon appart, à tourner un peu en rond les jours où elle me manquait, parce que du coup on a dû s'accorder sur une garde de un week-end sur deux la moitié des vacances, parce que ça faisait trop d'aller-retour, trop de problèmes et tout ça. Et du coup, j'ai commencé par faire des illustrations avec ma fille. J'ai commencé ça en 2016, je crois. Voilà, j'ai eu envie de faire des dessins. Alors je dessinais pour elle à la base.
Ok.
Je faisais des dessins. Voilà, quand elle était avec moi, on se marrait parce qu'elle avait 4 ans à l'époque.
Ouais.
Ouais. Et du coup, je faisais des dessins pour rigoler avec elle, quoi. Et puis un jour, avec la distance et tout ça, je me suis retrouvé chez moi, pas savoir quoi faire, et j'ai reçu un coup de téléphone de mon ex-femme qui me disait « C'est énorme, elle était avec moi, elle m'a posé une super question, et du coup, j'ai trouvé ça trop cool, donc je te raconte ça, quoi. » Et en fait, elle a demandé à sa mère « Mais maman, comment je suis né ?» Et ensuite, elle lui a demandé « Est-ce que c'est papa qui m'a dessiné ?»
Oh.
Et juste ça, c'était juste « Mais non, mais moi, après, voilà. » j'ai fondu, voilà. J'étais dans un état compliqué, et donc du coup j'ai fait ce dessin là, quoi. J'ai dessiné ça, cette petite fille qui s'adresse à son père et qui lui dit comment je suis né, est-ce que c'est toi qui m'as dessiné. Mm-hmm. Et du coup ça a été le premier dessin que j'ai fait sur la paternité, et après il y a eu un super accueil. Déjà à la base j'étais vraiment sur Facebook, quoi. Il y a eu un vrai super accueil, et du coup ça m'a donné envie de continuer. Et après, voilà, ça a donné ce que je fais aujourd'hui.
Ok. Bon, on va reparler un petit peu de tout ça un peu plus tard. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa ?
J'ai toujours adoré les enfants. Vraiment, c'est déjà le choix de mon métier, travailler avec des enfants. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Tout ce qui est lié à l'enfance. Mais je pense que c'est parce que j'ai un petit syndrome de Peter Pan. Tu vois, j'ai pas vraiment grandi sur tous les points, mais j'ai toujours eu envie d'être papa. Après, pour ma fille, ça a été compliqué parce que j'étais très jeune et ça s'est pas fait vraiment dans les conditions optimales pour avoir un enfant. Voilà, quand ça arrive, ça arrive. Et j'étais super content de la voir et de la tenir dans mes bras pour la première fois. Et je crois que voilà.
Tu sais que tu vas trop jamais... vite. Hein.
Ah ouais.
Ouais, tu vas raconter un petit peu. Après, je sais pas trop si tu veux rentrer dans les détails ou pas du fait que ça a été compliqué. Mais en fait, avant d'aller là-dedans, il se concrétise comment ton syndrome de Peter Pan ?
Je sais pas comment l'expliquer. J'ai du mal avec l'adulte en général, tu vois.
Ouais.
Parce que j'ai des expériences un peu particulières avec les adultes. Je suis souvent, je suis un petit peu hypersensible aussi, et j'ai du mal avec certains comportements d'adultes.
Ok, comme quoi, voilà. Par exemple ?
Comme le fait d'entendre des personnes raconter des choses. par devant et pas les mêmes choses par derrière. Okay. Tu vois, c'est des trucs qui me dérangent vraiment dans mon quotidien. Et t'ajoutes à ça un petit syndrome de l'imposteur qui est aussi bien développé chez moi.
Ok.
Surtout par rapport au dessin. Déjà, je me retrouve avec une communauté quand même super importante et je me dis juste putain, bah je sais pas comment ça se fait. La chance,
voilà. Tu penses?
Bah c'est en tout cas voilà, j'essaye de sortir un petit peu de ça, mais mon cheminement premier, c'est vraiment bah la chance quoi. Voilà, j'ai posté des dessins et ça a marché. C'est vrai, ça, parce que ça a été relayé par des personnes qui ont des communautés importantes, et du coup c'est de la chance, tu vois. Voilà, je suis, voilà, bah non, c'est, après c'est compliqué, c'est très très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à me définir en tant qu'artiste, parce que même si tu vois je prends à cœur des sujets, en fait je prends à cœur des sujets très importants pour moi, que ce soit enfin tu vois des trucs très légers comme je peux parler d'apéro et de des bêtises d'enfants ou de trucs d'enfants dans mes dessins, mais en même temps je vais prendre position pour des combats qui me tiennent à cœur, par exemple je pense à, je sais pas si tu connais Nadia Bergougnou, c'est une auteure qui se bat pour faire entrer le mot parange dans le dictionnaire, tu vois.
Oui.
Et c'est une personne pour qui j'ai fait des dessins et ça me tenait vraiment à cœur. Après il y a beaucoup de causes qui me tiennent à cœur dans les dessins, j'en parle souvent.
Ouais.
Mais donc du coup j'ai eu du mal à me définir en tant qu'artiste, mais c'est en discutant avec une autre illustratrice justement, Fanny Vella, qui me disait que en fait nos dessins, elle fait comme moi, elle dessine un petit peu sur des sujets qui la touchent particulièrement, tu vois. Et elle disait que nos dessins en fait sont d'intérêt public et que en tant qu'artiste notre rôle de dénoncer des choses. Et du coup depuis ce moment-là, j'arrive à peu près à dire que je suis un artiste, mais c'est très compliqué.
OK. Est-ce que tu penses que c'est aussi ton... Bon, on dévie un peu du sujet de la parentalité, mais je pense que tout est très lié, à mon avis, dans la suite. Mais est-ce que tu penses aussi que c'est le fait que tu sois autodidacte et que tu sois aujourd'hui prof, tu vois, donc t'es pas forcément une formation pour ça qui fait que c'est compliqué pour toi?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Après, le fait d'avoir appris seul le dessin, je suis pas sûr que ce soit un inconvénient, mais le fait que j'ai derrière moi maintenant une communauté qui me soutient comme ça, et je me sens voilà, pas forcément légitime des fois.
Ok.
Mais j'ai eu ce même ressenti avec la paternité, par contre, tu vois.
Ah, ok.
Pour la simple et bonne raison que quand je me suis retrouvé à Marseille, avec le mode de garde de un week-end sur deux et la moitié des vacances, tu vois, je me sentais pas légitime en tant que papa, tu vois, pour certaines décisions par rapport à ma fille ou même voilà en tant que papa, puisque alors je suis papa à 100%, mais j'étais avec ma fille que 10% du temps, tu vois.
Ok. Pour revenir un petit peu à ton parcours de papa, est-ce que tu peux nous raconter le cheminement qui t'a amené toi à vouloir devenir papa de ta première fille?
Alors, pour faire simple, quand je suis devenu papa, je sais pas vraiment si j'étais prêt.
Ok.
Parce que j'avais 25 ans ou 26 ans, un truc comme ça, et mon ex-femme était un peu plus âgée que moi, et elle avait vraiment un vrai désir de maternité, d'avoir un enfant, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout prêt. Dans le sens où j'avais pas de boulot, j'étais encore dans les études, enfin voilà, c'était un petit peu, j'avais priorisé un petit peu ça, et dans ma tête je m'étais dit voilà, mon cheminement de vie c'est trouver un boulot, avoir un enfant, machin.
Ouais.
Et en fait c'est arrivé comme ça, sans que ce soit forcément prévu, elle est arrivée. Et du coup, là, t'as pas le choix, quoi. Tu vis le truc.
Comment tu l'as vécu, cette grossesse que t'avais pas préparée? Alors, bon, après, spoiler alerte, mais parfois, on fait des plans dans la vie et en fait, ces plans-là fonctionnent pas.
C'est exactement ça. Alors, ça marche pas, ça a pas marché pour la première, mais pour la deuxième, tout était calé au millimètre.
C'était
quoi,
mieux.
Pour Mathis, c'était calé au millimètre, ouais. Alors, pour revenir sur Anaë, la grossesse, ça s'est passé comme il faut. J'ai essayé d'être le plus présent possible, mais en travaillant, et c'était un peu compliqué. Et après,
parce que
et après la naissance.
Excuse-moi, mais t'étais déjà éloigné de la maman à l'époque, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ok, d'accord.
J'étais encore avec elle, mais okay. J'essayais de bosser pour pouvoir manger.
Oui, bien sûr. Simplement. Ok.
Voilà, avec la maman, c'était un petit peu compliqué. On n'était pas trop dans le même état d'esprit. Mais okay. Je pense que c'est parce que j'étais un petit peu trop jeune et pas prêt surtout.
Ok. Voilà.
Et du coup, la grossesse s'est quand même plutôt bien passée et l'accouchement incroyable, tu vois. On s'est dit, on va se faire un McDo pour.
Quoi?
Non mais je t'explique. Okay. Ma femme se réveille un matin, elle me dit tiens j'ai mal au bide.
Ah, okay.
Mais je crois que j'ai faim en fait. Et donc je fais ok bah très bien. Allons manger un truc quoi. Elle me dit écoute on va se faire un McDo mais avant on va passer à l'hôpital histoire de voir si tout va bien parce que je sais pas, j'ai un petit peu mal quoi. Mm. Je fais ok très bien. Donc on a été à l'hôpital et en fait elle était en train d'accoucher. Donc, tout simplement, hein, en toute simplicité. Ça a mis un peu de temps quand même, mais elle a accouché dans des semi-bonnes conditions, c'est-à-dire que la péridurale lui avait endormi que la moitié du corps.
Ok.
Donc, un petit peu dans la douleur. Et j'ai participé à l'accouchement, j'ai coupé le cordon, tout ça. Waouh, quoi. Tu vois ton enfant pour la première fois, t'as beau pas être prêt, t'as beau te trouver des excuses, te dire putain c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas, il y a tout qui est balayé en deux secondes quoi.
Ouais, je voulais te demander justement comment ça se passe pour toi alors que tu disais que t'étais pas prêt. Est-ce que t'as la sensation avec le recul d'avoir réussi à profiter entre guillemets correctement de la grossesse?
Non, je pense que j'ai pas profité correctement de la grossesse. Pas comme j'aurais voulu, mais même si on n'est pas prêt, en fait, je sais que c'est un peu cliché. Et souvent, quand je parle avec des papas, ils me disent tous la même chose.
Ouais.
C'est vrai que les papas, on a tendance à devenir papa au moment où on voit l'enfant pour la première fois. Alors après, même si on n'est pas prêt, quand on voit cet enfant pour la première fois, je crois que il y a plus rien à dire quoi. On se prend ça dans la gueule direct et c'est incroyable.
Okay.
Je suis tombé amoureux d'elle à l'instant où je l'ai vue quoi.
Ok. Comment se passe la suite?
Alors la suite très très particulière parce que je me suis séparé de la maman au bout d'une semaine.
Ah ok.
Elle avait une semaine.
Ok.
Ouais.
Ouais donc très rapide.
Ouais. Très très rapide et après il a fallu trouver un équilibre avec ça. Alors on a mis le temps mais on a réussi à s'accorder avec la maman et aujourd'hui ça se passe super bien. Vraiment on a saisi que l'intérêt d'Anaë c'était la priorité dans tout et qu'il fallait qu'on soit responsable.
Ouais.
Donc ça se passe très très bien.
Mais c'est chouette. Comment vous avez réussi à faire ça, à faire ce chemin là
à trouver cet équilibre-là?
Ouais, c'est ça.
Bah, juste en prenant en compte le fait que c'était Anaë qui comptait, quoi. C'était elle qui avait notre priorité. C'était notre priorité. Et c'était que elle. C'était pas nos disputes à nous, nos mésententes et tout ça, quoi. C'était,
okay.
Il fallait qu'on ait une petite fille qui arrive à évoluer dans un climat serein et pas dans un truc de guerre et de... et de Cuba et tout ça, quoi.
Ok.
Ça avait vraiment une importance pour nous.
D'accord. Si j'ai bien compris, tu pars à Marseille, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Quasiment dans la suite des événements, c'est ça ?
Ouais. Alors pas tout de suite parce que j'ai quand même. Alors on habitait le même village avec la maman.
Ok.
Donc du coup c'était quand même plutôt facile. Je pouvais aller voir Anaë très souvent. Après, par contre, voilà, j'ai eu mon concours. Et là, mutation à Marseille. Donc, là, en fait, j'ai pas eu le choix, quoi. J'ai essayé d'appeler en disant, mais vous comprenez, j'ai eu une enfant. C'est compliqué. Et on m'a dit, c'est soit ça, soit vous perdez votre concours. Oh. Et si tu veux, comme j'ai un petit peu galéré à l'avoir, ce concours, qui est pas si simple, j'ai été obligé d'accepter ça. Et de partir à Marseille, voilà.
Ok.
Donc, choper un appart, m'installer à Marseille, et voilà.
Ok, donc j'imagine début de cette là un peu compliqué.
Ouais, assez compliqué, un peu dur de se sentir papa à 100%, quoi. C'est ce que je te disais plus tôt. Enfin, voilà. C'est compliqué parce que je menais à la fois une vie de célibataire parce que j'étais célibataire et que je débarquais dans une nouvelle ville où je connaissais personne, et à la fois j'avais quand même cette responsabilité-là d'être un papa, quoi.
Comment t'as fait pour trouver tes marques petit à petit? Avec ce rythme un peu décalé avec ta fille.
Je pense que ça s'est fait naturellement et assez simplement parce que, comme je te disais, moi, ma famille habitait dans le même village que mon ex-femme. Donc du coup, ça me dérangeait pas de partir les week-ends et d'aller passer 3 jours chez mes parents avec ma fille, et voilà, c'était super. Ça m'évitait de faire beaucoup d'allers-retours sur Marseille, et après on a fait, plus elle a grandi et plus on a fait différemment. Aujourd'hui, quand je la récupère, je viens la chercher, on débarque à la maison, on passe les 3 jours tranquillement en famille, et après je la ramène chez sa mère, quoi.
Ouais. Au fur et à mesure, vous avez trouvé vos marques, quoi.
Ouais, on a trouvé nos marques, on a trouvé notre équilibre. Avec ma nouvelle compagne aussi, voilà.
C'est pas compliqué c'est pas compliqué de voir ton enfant qu'une semaine sur deux, enfin un week-end sur deux justement. Comment tu fais pour tisser un lien dans ces moments-là?
Alors franchement, ouais, c'est hyper compliqué parce que le manque, parce que tout ce que tu rates, ce que tu peux pas faire, tu vois. Moi, je suis prof des écoles. Cette année, elle est en CE2. Et moi, je suis prof des écoles en CE2.
Okay.
Donc, dès qu'elle a une question sur le boulot et tout, je pourrais tout lui expliquer. Lui réexpliquer et tout ça. Mais ça se fait pas forcément quand on a nos semaines de boulot, quand sa mère bosse, etc. C'est un peu compliqué des fois de savoir. Là, par exemple, on a profité du confinement pour pouvoir justement faire ça, l'aider par téléphone et tout ça. Mais bon, ça reste un peu du virtuel, quoi.
Et donc, t'as un deuxième fiston, c'est ça ?
Enfin,
t'as un
ouais, deuxième enfant. Ouais, j'ai un petit Matisse, ouais, ouais. Qui est arrivé il y a 13 mois.
Ok.
C'est ça. Donc là, c'est vraiment une configuration complètement différente.
Ouais.
Du coup, ma vie de célibataire sur Marseille, j'ai rencontré la maman. Ça se passe très très bien. On a fait le choix d'avoir un enfant. On avait tout planifié. Elle est prof des écoles aussi.
Ok.
Et on s'est dit il faut que je tombe enceinte en juin, comme ça moi j'accouche là, j'ai ça.
Ah ouais.
Elle avait tout planifié dans sa tête. Et le truc s'est fait, mais goupillé, impeccable.
Ok.
Puisqu'elle est tombée enceinte en juin et qu'elle a profité de ses vacances pour pouvoir rester avec Mathis parce que les congés maternité se goupillaient parfaitement avec les vacances.
Ok.
Donc voilà, nickel.
Ok. Et en quoi cette grossesse pour toi fut différente de la première ?
Bah, du coup, comme on était assez. Étant prof tous les deux, tu vois, on a réussi à caler tous les rendez-vous les mercredis, les trucs importants, en tout cas les moments où j'étais pas forcément en classe. Mm-hmm. Puisqu'elle a été arrêtée assez tôt quand même. C'était un peu compliqué pour elle. Elle était maîtresse en maternelle et c'était assez compliqué. Au niveau de la fatigue, le bruit, tout ça. Et du coup, j'ai pu assister à tous les rendez-vous. Mais quand je te dis tous les rendez-vous, que ce soit le médecin, gynéco, écho, même la préparation à l'accouchement, j'ai fait ça avec une assiduité incroyable. Au grand désespoir de la sage-femme, d'ailleurs, qui nous faisait les cours, parce qu'on finissait toujours par un peu de relaxation et je m'endormais systématiquement.
Ah oui, c'est le meilleur moment.
ce moment-là, il est incroyable. Je l'ai enregistré en douce un jour parce que ouais. j'avais du mal à m'endormir le soir et je me passais ça pour m'endormir, c'était trop bien.
C'est pas fait pour normalement, hein. On est censé se relaxer, pas s'endormir.
Là, la relaxation a été poussée à l'extrême. ça finissait un gros ronflement.
Ah oui, c'est pour ça que la sage-femme était vénère. Tu lui ruinais son moment.
Bon, après, la fatigue aussi, quoi. J'allais bosser, je partais bosser très tôt, je revenais le plus vite possible pour voir ma femme, pour profiter de ces moments-là avec elle et tout, tu vois. Donc j'étais un peu épuisé, ouais.
Comment se passe l'accouchement ?
Alors, grossesse parfaite, à part fin de grossesse, elle a commencé à avoir une sciatique qui a été très compliquée. Et l'accouchement, trop bien. Enfin, voilà, parfait. Ça s'est déclenché sur le coup des 4 heures du matin. On a été à l'hôpital. Elle a perdu le bouchon muqueux, donc ils l'ont gardé. Péridurale, et après, à partir du moment où il y a eu la péridurale, ça a été parfait. Voilà. Elle a accouché sans douleur. J'ai sorti le bébé, moi.
Ok.
Donc j'avais prévenu les sages-femmes que je voulais vraiment participer et tout, et elles ont sorti la tête et les épaules, et à ce moment-là, elles m'ont dit allez-y. Et c'est moi qui l'ai sorti et qui l'ai posé sur ma femme, donc c'était juste énorme.
Qu'est-ce qui fait que t'as voulu faire ça ?
Bah parce que pour
c'est
moi...
C'est pas commun, je pense, dans les 60 et quelques épisodes d'Histoire de Daron, j'ai pas souvenir d'avoir eu un papa qui m'a raconté ça.
J'avais vraiment envie de prendre part au truc, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait, quoi, et voilà, ça j'avais envie de le faire, c'est justement parce que c'est quelque chose de pas forcément commun, et j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. On en avait parlé avant l'accouchement, j'en avais parlé et je lui avais dit j'aimerais, j'ai vu que ça se faisait un petit peu parce que je regardais plein d'émissions, plein de trucs et tout ça, et que de plus en plus il suffisait d'informer les sages-femmes, de leur dire qu'on aimerait être présent à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait. Elles m'ont dit ok, très bien, on est super contentes, et je l'ai fait, et c'était juste un moment incroyable, quoi.
Ok.
J'ai sorti mon enfant de ma femme et je lui ai posé dessus, quoi.
Ouais.
C'était fou. Et là, pareil, un déferlement de j'ai pleuré, l'amour, quoi, le truc génial, trop bien.
comment ça se passe les premiers jours avec Mathis?
Ça s'est plutôt bien passé. On était, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais on a accouché à Aix, à l'hôpital d'Aix.
Ouais.
Et alors tout s'est bien passé, oui et non en fait, parce que ma compagne voulait vraiment allaiter mon fils. Et il se trouve qu'on est tombé sur une équipe de nuit. Alors accrochez-vous, quoi, parce que en fait c'était un peu tard, c'était 11h du soir et Mathis faisait que pleurer. La maman était vraiment, elle avait vraiment l'envie de l'allaiter parce qu'elle s'est dit, moi je veux faire ce qu'il y a de mieux pour mon bébé et voilà, je veux faire ça, c'est super important pour moi. Elle avait verbalisé auprès des soignants, etc. Et à 11h du soir, Mathis faisait que pleurer et on savait pas trop quoi faire parce qu'on était un petit peu démunis dans ces moments-là, quoi. Dans ce moment-là, on était vraiment... Et donc, on a appelé les personnes qui étaient de garde la nuit et elles ont débarqué dans la chambre en disant... Bah, enfin voilà, elles ont débarqué dans la chambre. On leur dit mais qu'est-ce qui, enfin voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Il fait que pleurer, il arrive pas à prendre le sein et tout. Et là, la femme, elle nous a juste répondu mais vous voyez pas que vous êtes en train de l'affamer votre gamin là.
Ouais.
Là, tu vois, tu réagis pas parce que tu dis quoi. Tu vois, tu reçois ça, ça te fait du mal, quoi. Et elle nous a sorti, bah, je vais lui chercher un biberon, et voilà. Et du coup, on a vraiment, ni elle ni moi, on a pu réagir. Elle lui a mis son biberon, il a pris son biberon, et ça a été fini. Impossible de lui donner... De lui donner le sein, en fait. Et l'expérience, elle a été vraiment hyper traumatisante pour ma compagne, quoi.
Ouais.
Parce que du coup, ils ont débarqué avec un tire-lait, machin. Enfin, après, ils ont essayé de lui tirer son lait. Ça marchait pas. Ça a été vraiment un truc galère. Et au final, ben, il a fini au biberon.
Ok. Compliqué, j'imagine. Mais tu vois, je pense que autant il y a des. J'ai régulièrement des papas qui racontent que ça s'est super bien passé avec le personnel soignant, etc. etc. Autant je pense que c'est cool aussi. De le dire quand ça se passe mal, parce que comme tu disais, vous avez été tous les deux subjugués,
choqués,
quoi,
hein,
voilà, et vous n'avez pas pu réagir, alors qu'en fait vous auriez très bien pu dire bah en fait non, on veut pas de ça et on veut faire autrement, quoi. Et c'est cool,
ouais, bah,
c'est
du
en
coup,
disant que ça permet de se préparer aussi, quoi.
Mais j'ai eu beaucoup de mal à le sortir, moi, ça, tu vois.
Ouais.
Je l'ai pas très bien, je l'ai vraiment mal vécu aussi.
Ouais.
Mais c'est pas sorti de suite parce que bah parce qu'il y avait toute l'émotion derrière de l'accouchement, tous les moments qu'on a passé à faire connaissance avec cet enfant et tout ça, et j'ai mis plusieurs mois à le sortir et je l'ai sorti en faisant une mini BD justement,
ouais, j'avais vu
sur ma page, mais voilà, ça, j'ai vraiment eu du mal à le sortir, quoi, parce que c'était ça a été trop, c'était un traumatisme, quoi, vraiment ce truc de vous êtes en train d'affamer votre enfant, quoi, tu vois.
Ouais. Bah écoute, si ça peut la rassurer, mais je pense pas que ça va la rassurer des masses, mais ma femme à l'époque a eu droit au même traitement, hein, donc
Ouais, c'est...
Mais pas à l'hôpital pour le coup, mais par une puéricultrice ensuite, quoi, tu vois, qui lui a sorti exactement la même chose parce que l'allaitement était compliqué. Donc, et en fait, elle l'a pas bien vécu non plus, comme tu peux l'imaginer. Mais je pense que c'est important. C'est important de le dire, c'est important de le faire savoir, et c'est important de dire aussi aux potentiels futurs parents que vous n'êtes pas obligé de. Alors, déjà, il n'y a pas de recette miracle, hein, pour faire manger un enfant. Et puis c'est pas de votre faute, quoi, surtout. Vous êtes là pour apprendre.
Ouais, et puis surtout, ce qui est ultra important aussi à dire, c'est que... Alors moi, j'ai reçu du coup plein de réactions par rapport à cette BD que j'avais publiée.
Je mettrai le lien dans les notes du podcast, hein, pardon, mais je mettrai le lien.
Yes. Il y a plein de gens qui m'ont donné plein de conseils derrière, qui me disaient mais même si ça se passe mal à la maternité, c'est pas trop tard. Même si on vous dit que c'est trop tard, il y a des professionnels de l'allaitement qui sont vraiment géniaux et qui sont capables de faire des miracles et tout ça. Donc si c'est votre volonté d'allaiter, mais rapprochez-vous. Il y a plein d'associations, il y a plein de trucs super pour réussir ça, quoi.
Mm-hmm. Eh bien, écoute, voilà, je mettrai le lien dans les notes si jamais vous voulez aller lire les différents commentaires de ce post sur Insta en particulier. Vous trouverez le lien dans les notes. Si tu veux bien, revenons un petit peu à ton feed sur Insta, parce que effectivement, tu parles de plein de choses. Tu parles beaucoup de paternité, mais tu parles aussi beaucoup de masculinité d'une manière générale, je pense.
Ouais. ouais.
C'est un vrai sujet pour toi.
Je pense que se positionner aujourd'hui, ça a vraiment une importance parce que je parle de masculinité, je parle de féminisme, je parle de parce que je pense que l'homme il a autant perdu que la femme avec le patriarcat.
Ouais.
Voilà. Je pense que on s'est tous fait du mal avec ça et que aujourd'hui on en a conscience, donc on peut pas laisser les choses comme ça. Moi, on en discute souvent avec ma compagne et on sait très bien que non seulement ma fille, on l'élève dans cette idée-là que les hommes sont pas supérieurs aux femmes du tout. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec Mathis, quoi. Qu'on est tous égaux. Et c'est ça, en fait, le féminisme. Les gens comprennent pas que le féminisme, c'est pas juste que la femme soit supérieure à l'homme, pas du tout. C'est juste que la femme soit égale à l'homme. Voilà. Petit point de précision.
Tu parles aussi beaucoup de violence conjugale.
Ouais.
J'ai vu plusieurs posts de toi qui relatent ça. Qu'est-ce qui fait d'une manière générale que tu as voulu prendre, que tu as voulu t'exprimer sur ce sujet-là en particulier?
C'est juste que ça fait partie des choses que je trouve inacceptables. Voilà, je peux pas comprendre qu'on puisse réagir comme ça avec une personne. Alors après, voilà. Je peux pas. Enfin, à chaque fois, je me retrouve quand je fais un dessin comme ça avec des commentaires du style ouais, mais les hommes aussi sont victimes.
Ah oui.
Bon, voilà, tout ça. Ça, j'ai un peu du mal avec ça parce que je.
Alors, il y en a. Hein. Faut pas les nier non plus. Ils existent.
Il y en a et j'ai fait des dessins dessus aussi, voilà. Et il y a aucun souci. Mais c'est juste que des fois, les gens se rendent pas compte qu'on peut pas tout traiter en un seul dessin, que oui. C'est pas forcément le sujet du dessin, etc. Ouais. Mais oui, les violences conjugales, c'est quelque chose que j'ai, qui me tient à cœur parce que pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est des choses que j'ai connues dans une sphère proche et que j'ai pas forcément accepté, quoi. Voilà.
Revenons à l'éducation de ton fils, si tu veux bien. Comment tu comptes, toi, l'élever en tant que petit mec au 21e siècle? En gros, tu vas avoir la société contre toi, quoi. Je sais pas si tu es au courant, mais... Moi, ce qui me fascine...
Je sais pas si vraiment... Encore, tu crois?
Ah, bah,
j'ai l'impression qu'il y a quand même une... Ça commence à s'éveiller un petit peu, non, les consciences?
Je sais pas. En tout cas, moi, il y a toujours un truc qui me fascine, c'est que quand mes filles faisaient leur anniversaire, si tu veux, à la maison, il y avait toujours genre 2-3 mecs invités et puis une ribambelle de copines. Et en fait, les mecs, ils trouvaient toujours un moyen de trouver n'importe quoi pour se taper dessus. Et en fait, j'étais toujours assez fasciné de voir que en fait les filles étaient en train de jouer au trampoline ou de faire des trucs, et les mecs, en fait, systématiquement, ils se tapent dessus. Et ils sont dès le plus jeune âge, hein, tu vois, dès l'âge de 6 ans. Et je me disais, mais c'est fou, en fait, ils se tapent dessus, quoi qu'il arrive, ils se tapent dessus. Et je me dis, en fait, j'ai la sensation que, et j'ai vu que tu avais fait aussi un post sur le harcèlement. C'est un truc qui est compliqué. Je pense que tu as, dis-moi si je me trompe, hein, mais tu as aussi un passé, toi, de gamin harcelé, si tu veux.
Ouais, carrément.
Et en tant que garçon, c'est pas un truc qui est forcément très très simple à faire. Après, je veux pas non plus te dire que ça va pas dans le bon sens, si tu veux, mais j'ai toujours la sensation que ça va dans... Quand tu veux donner une éducation féministe à ton fils, tu vas un peu contre le reste du monde et c'est compliqué, quoi. Tu vois.
Je pense pas.
Ok.
Je trouve que c'est plus simple aujourd'hui de donner une éducation un petit peu féministe à un garçon. Parce que mine de rien, il y a quand même des mentalités qui évoluent aujourd'hui. On a conscience de tout ça. Et le fait d'avoir conscience, ça nous permet de faire des choix conscients. De nous dire, voilà, je décide d'élever mon enfant en ayant conscience de tout ça pour pouvoir l'aider plus tard. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... C'est lui rendre service, quoi. Après, oui, j'ai été harcelé parce que j'étais un petit garçon un peu costaud et que du coup, j'ai vécu ça. Ça a été assez compliqué. Mm-hmm. Parce que j'avais du mal, du coup, à me mélanger avec les autres. Et je l'ai expliqué aussi dans un des dessins où je disais que finalement si je dessine aujourd'hui comme ça, c'est parce que tous les moments que j'ai pas passé avec des amis parce que j'en avais pas, tu vois, enfin c'est des moments où je dessinais, quoi. Mm-hmm. où je me suis réfugié dans le dessin, etc. Alors bien sûr que je souhaite pas ça du tout pour mon enfant, quoi. J'espère que ce sera plus simple pour lui. Mm-hmm. mais je veux être capable de lui transmettre des choses comme ça, c'est super important. Mais comme j'ai déjà des discussions comme ça avec ma fille de 8 ans. Ouais. En lui disant que elle a pas le droit de subir des choses, qu'elle a sa sphère d'intimité et que sa bulle d'intimité, ben, y a personne qui a le droit de rentrer dedans si elle ne donne pas son accord, que je lui laisse faire ses choix, mais je lui dis que je suis là, quoi, que je suis pas, qu'elle est pas toute seule et que je la balance pas toute seule dans ce monde là et je lui dirai ça aussi quand elle sera ado et qu'elle sera à l'âge de faire ses premières expériences de tout, quoi.
Ok. T'as publié. Alors, tu fais plein de projets en même temps. Et est-ce que t'as une volonté à un moment donné de te lancer à plein temps dans cette activité de dessinateur ? Comment ça se passe ?
Je te cache pas que ça me plaît et c'est vraiment un truc qui me passionne. Mais j'aime aussi beaucoup mon travail de prof. Ouais. Donc ça va être. Et je pense qu'il va falloir faire un choix à un moment donné parce que ça commence à devenir hyper chronophage. Et pour ça, j'ai vraiment de la chance parce que Ma compagne, elle est au top avec moi. Elle arrive à me laisser du temps pour moi et ça c'est vraiment cool parce que ça prend du temps. J'ai mon bouquin qui est en train de sortir. J'ai un livre pour enfants en préparation et là je viens de signer avec Le Duc. C'est le groupe Albin Michel pour faire un manuel sur la paternité aussi.
Trop bien.
Donc, trop cool.
Félicitations.
Merci.
Mais oui, ça finit par te prendre, j'imagine, tes soirées et tes week-ends, quoi.
Ouais, ça me prend du temps, ouais. Ouais. Mais après, voilà, on essaye de s'organiser. Là, on commence à se dire, voilà, il va falloir qu'on trouve une organisation sur les vacances, sur les machins, pour pas que ça nous prenne non plus trop de temps sur notre vie de famille. Mm-hmm. Donc, voilà, on va y arriver.
Il y a une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants, soit ensemble, soit séparément, imagine, ils écoutent ce podcast dans 10 ans.
S'ils écoutent ce podcast dans 10 ans, j'aimerais bien leur dire.
Donc ta fille aura 18 ans, c'est ça ?
Elle aura 18 ans, wow. Putain. donc je serai sans doute un vieux con déjà j'aimerais lui dire de prendre le temps de regarder les dessins que j'ai fait pour elle et aussi pour mon fils, hein. Je suis en train de j'ai ajouté forcément un personnage depuis plus d'un an,
mais oui.
Mais ouais, j'aimerais bien que avec leur recul, ce sera presque une adulte à 18 ans, de lui dire de regarder ces dessins-là, ouais, pour qu'elle comprenne un petit peu tout ce que je ressentais, tout ce que je n'arrivais pas forcément à dire. C'est compliqué, des fois, pour un papa, de dire les choses.
Ah.
Et
pourquoi, tu penses ?
Non, mais je sais pas. En général, des fois, je trouve que justement, la société dans laquelle on est fait que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour un papa d'être papa et d'aimer être papa. Mais que longtemps, on a grandi dans un truc où les papas, c'était pas du tout. La personne qui te réconfortait quand tu te faisais mal ou qui avait forcément des mots gentils, tu
ouais.
vois, ou même qui montrait pas de forcément de tendresse envers un enfant. Alors bien sûr tout est en train d'évoluer et tout ça, mais voilà, on est la génération qui commence un petit peu à tourner ça, quoi.
Et ça a été un chemin pour toi de faire ce travail, justement?
Ben alors moi perso, j'avais un papa formidable, j'ai un papa formidable, extraordinaire, mais c'est vrai que au niveau des démonstrations, il n'était pas hyper démonstratif,
mm-hmm.
mais très bien sûr, on a toujours senti qu'il nous aimait et que c'était, mais c'est vrai qu'il n'était pas hyper démonstratif. Du coup, moi c'est sûr que on reproduit pas forcément ce qu'on a vécu et on fait chacun son chemin, tu vois. Mais moi j'ai vraiment envie de leur dire ces choses là quoi. Et peut-être que je pense que à 8 ans, en tout cas quand j'ai commencé mes dessins, elle avait 4 ans, elle était pas forcément prête à entendre tout ce que j'avais à lui dire. Donc je me dis que dans 10 piges, quand elle regardera ça, peut-être qu'elle comprendra aussi d'autres choses, quoi.
Mm-hmm.
Mon père, il avait juste une phrase que j'adore, qui m'est restée, c'est qu'il n'y a pas de manuel pour être papa.
Bah ça.
Et que des erreurs, on en fait tous, et on en fera sans doute tous. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que des fois, je reçois des commentaires ou des messages privés, tu vois, où on me dit, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé avoir un papa comme toi. T'as l'air extraordinaire, machin et tout, mais je suis un papa comme tous les papas, quoi. Je m'énerve des fois, je fais des erreurs, je fais des choses qu'il faut pas faire, je dis des choses qu'il faut pas dire, alors je me questionne beaucoup sur ça, mais y a quand même ce filtre là qui est assez marrant on m'a attribué un genre de paternité parfaite.
Ah ouais, sur les réseaux.
Ouais, sur les réseaux sociaux, ouais, carrément. Je reçois des messages très souvent. Je crois que j'en ai reçu un encore ce matin en me disant, ouais, vraiment, j'aurais aimé avoir un papa comme toi et tout. Alors que vraiment, on fait tous des erreurs et on est tous à la même enseigne.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Yannick. Je vous mettrai, si vous voulez découvrir le travail de Yannick, le lien de sa page Facebook et de son compte Insta dans les notes de cet épisode. En tout cas, un grand, grand merci à toi. Et puis, je te souhaite plein de bonheur pour la suite de tous tes projets.
Merci beaucoup.
À bientôt.
C'est trop sympa.
Salut.
À bientôt.
Ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.